Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute, on réfléchit, on jase sur des enjeux importants pour la communauté, pour la MRC. Maria Chapdelaine, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible dont on entend parler de plus en plus, soit la santé mentale, la dépression, tout ce qui tourne autour de ça. Avec moi, j'ai Ariane Lévesque, intervenante sociale, particulièrement auprès des familles.
Bonjour, oui, voilà.
Ariane.
Allô.
Ça va bien?
Oui, merci.
Oui. Et Josée Dion, directrice du Centre de santé mentale Larimar.
Bonjour. Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Ouais. Donc, on va commencer. Commençons par vous rencontrer. T'sais. Bon, Ariane, toi, c'est quoi ta formation? Qu'est-ce qui fait que tu peux devenir intervenante?
Toi? Oui, bien, moi, en fait, j'ai fait mon cours au cégep, donc un DEC en travail social. Puis mon parcours à l'arrimage remonte à déjà mes stages au cégep. Okay. En fait, là, j'ai fait mon dernier stage. Continue à l'arrimage. Ensuite, j'ai poursuivi comme étudiante d'été. Puis les choses se sont placées que tout de suite, en finissant après, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. À l'époque, j'ai signé pour un remplacement de 6 mois. Finalement, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai touché à différents services, mais là, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis responsable du service support à la famille et aux proches. Donc, on offre du soutien, du support, de l'information à toute personne de l'entourage qui aurait un proche atteint, qui vit avec un diagnostic au niveau de la santé mentale.
Wow, OK. Parfait. Oui. On va y revenir de toute façon là-dessus. Josée, toi?
Moi, mon histoire est un peu plus longue que la sienne.
Oui, c'est correct.
Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai complété quand même certains certificats au niveau universitaire. J'ai débuté, moi, à l'arrimage comme intervenante en remplacement d'été il y a 30 ans.
OK.
En me disant, je vais faire ce remplacement-là, puis quand il y aura une autre opportunité ailleurs, je vais aller ailleurs. Mais finalement...
Il n'y a jamais eu d'autres opportunités.
Ben, il y en aurait peut-être bien eu d'autres, mais je suis demeurée à l'arrimage. J'ai été intervenante quand même plusieurs années, une dizaine d'années. Après ça, je suis devenue directrice là, à la suite.
Bon. Et là, tu me dis, ça fait 30 ans.
Oui.
Ça fait combien de temps que l'arrimage existe?
L'arrimage, ça fait près de 35 ans là, que ça existe.
Oui.
Cet automne, ça
Est-ce que c'est normal? Moi, je suis surpris. Je pensais que
c'est normal. Il y a plein de monde qui ne le savent pas. Là.
OK.
Oui.
Ah, wow. Fait qu'on a... Fait que ça fait longtemps, en fait, que ces problématiques-là. Oui. Ben, pourquoi aujourd'hui, on en parle plus qu'on pouvait en parler avant? C'est parce que c'était tabou encore, il n'y a pas si longtemps?
Bien, je pense que oui. C'était tabou. Puis, tu sais, les gens, là, dans les dernières années, ont quand même souffert là, de déséquilibre. On ne pourra pas dire de problème, tu sais, de maladie mentale, sauf que leur équilibre de leur santé mentale a été fragilisée là, par, on sait ce qui est arrivé dernièrement. Ouais. Donc, ça, la sensibilité des gens est davantage. Là, fait qu'on va chercher plus d'aide qu'on pouvait le faire avant. Bon. Parce que la moyenne des personnes atteintes demeure quand même, c'est une personne sur cinq là, qui va vivre au cours de sa vie un problème de santé mentale. On voit qu'il y a une légère hausse, mais pour le moment, c'est pas significatif encore. Là.
Puis, historiquement, on en parlait, on cachait ça, les problématiques de santé mentale, mais aujourd'hui, je pense que c'est clair pour tout le monde. Reprenez-moi si je me trompe, mais tu sais, une maladie mentale, ça reste une maladie comme quand tu as une grippe. Là. Donc, il y a des manières aussi de passer au travers, de se soigner, puis de redevenir un actif pour la société.
Bien sûr. Tu sais, à l'arrimage, l'approche ultime qu'on utilise dans nos interventions, c'est le rétablissement. Donc, c'est déjà à la base de croire que peu importe le diagnostic que tu vas recevoir, il y a possibilité de se rétablir, c'est-à-dire de passer à travers certaines étapes, d'accueillir ce diagnostic-là et d'adapter le quotidien, la vie autour de ça, mais il y a moyen de ne pas être nécessairement symptomatique d'une façon dérangeante à tous les jours. Donc, se rétablir d'un diagnostic et l'entourage qui est autour de cette personne-là aussi, son rôle à jouer dans tout ça, il y a certainement un rétablissement à vivre aussi. Oui, là, se rétablir, de ne pas être seulement tout le temps dans les symptômes et dans la peur de cette maladie-là. Donc, c'est ce qu'on utilise comme approche là, dans le but de redonner espoir qu'on peut très bien fonctionner. Là.
Puis ce que je veux aussi, tu sais, avec cette émission-là, c'est aussi démystifier. Tu sais, quand quelqu'un est malade, on dit « Ah, soigne-toi, prends soin de toi ». Puis quand quelqu'un a un problème de santé mentale, on dit « Hey, prends-toi ». Ou tu sais, on n'a comme pas la même sensibilité. Force-toi un peu. Fait que je pense que c'est bien de le nommer aussi, là.
Non, oui, il faut prendre le temps.
Donc, l'arrimage, c'est né d'un besoin de la communauté. Comment c'est né? Est-ce que vous le savez?
Bien, au départ, c'est né, c'est un comité là, qui a été formé là, dans notre communauté. Puis c'était vraiment des membres de l'entourage qui vivaient là, justement des besoins par rapport à leurs personnes atteintes puis pour eux autres aussi.
Okay.
Donc, ils ont parti là, avec un groupe. Là, il était, je pense, 7 à 8 personnes puis qui ont demandé. Ils ont fait toutes les démarches pour pouvoir avoir des services. Ça a commencé par un service d'écoute téléphonique puis de l'aide aux proches.
OK.
Après ça, c'est greffé tranquillement des nouveaux services. Là. Le milieu de jour est arrivé après.
Le milieu de jour, ça, c'est les gens que vous êtes capables d'accueillir durant la journée?
Oui, c'est ça. C'est souvent les après-midi qu'on est ouvert, le milieu de jour. Nous, on est ouvert tout le temps. Là. Okay. Mais le milieu de jour est surtout les après-midi, mais peut être le matin aussi, dépendamment des activités. Là. Il y a un calendrier qui est fait là, à chaque mois, puis les gens, ils savent qu'est-ce qu'il va y avoir, fait qu'ils peuvent venir là, à leur
c'est vie, des activités, ça. Donc les gens regardent, c'est eux qui décident s'ils ont besoin de s'outiller en lien avec l'activité
c'est ça.
Qui est là.
Il y a différentes activités, ça peut aller vraiment à une démarche plus personnelle, une réflexion ou une discussion en groupe, puis ça peut être aussi qu'on va faire du bingo. Là. Tu sais, ça a vraiment là, une vaste éventail de services qu'on va donner à ce moment-là. C'est le but, c'est de sortir les gens de l'isolement aussi. Puis d'aller rencontrer d'autres personnes.
Personnes qui peuvent avoir les mêmes défis que
c'est
eux.
C'est ça, oui.
D'être capable de s'aider, de partager les outils.
Ben oui, mais puis on le voit aussi, tu sais, c'est des gens souvent qui sont isolés, puis qui vont venir au milieu de jour, puis qu'après, ils se rencontrent le soir, ils sont un petit groupe, ils vont jouer à des jeux de société, il y en a qui vont jouer au tennis, tu sais. Ça crée vraiment là, un beau milieu d'échange, puis qu'après, puis c'est ça qu'on souhaite aussi.
Ben oui.
On ne veut pas que les gens viennent au milieu de jour pendant 30 ans, là. On veut vraiment qu'ils créent, qu'ils viennent chercher, dans le fond, les petits plus qu'ils n'ont pas. Puis qu'après ça, ils vont pouvoir poursuivre. Là,
les ouvrir la porte, comme ça, vous les laisser grandir.
C'est ça. Puis des fois, il y en a qui viennent, ils arrêtent de venir, puis hop, ils vivent peut-être un moment plus difficile, bien là, ils vont revenir.
OK.
Fait que là, on poursuit avec eux autres à ce moment-là. Wow. Jusqu'à temps qu'ils refont nos petits bouts.
OK.
Oui.
Quel autre type de service vous offrez à l'AMA?
On a aussi un volet au niveau du socio-professionnel. On a un plateau de travail. Dans le fond, c'est des gens qui vont venir acquérir une expérience de travail. On peut dire qu'ils sont un peu plus éloignés du marché de l'emploi.
Okay.
Tu sais, on a une petite ressourcerie, nous, en bas de notre local. Donc, c'est les gens de l'atelier qui vont travailler à la ressourcerie, okay. Ils vont faire le tri des vêtements. On fait aussi la récupération des textiles de l'hôpital.
Okay.
Fait qu'on fait des guenilles avec ça qu'on va vendre. Il y a des milieux de stage, là, vraiment dans les milieux d'emploi réguliers. C'est assez vaste, là. Puis, on a aussi le programme IPS. Ça, c'est en anglais, puis je ne te le dirai pas là, ce que ça veut dire. Là. Mais c'est vraiment l'intégration au milieu régulier de l'emploi.
Okay.
Fait que là, les agents IPS vont vraiment accompagner la personne dans toute sa démarche d'emploi. Ça peut être le CV, pratique d'entrevue, recherche d'emploi. Puis, ça peut être aussi quelqu'un qui est au travail, bon, qui est en absence pour congé maladie, on va dire burn-out, qui a de la difficulté à réintégrer. Bien, nous, on peut aussi intervenir à ce moment-là, accompagner la personne, là.
Les rendre autonomes dans le travail.
C'est ça. On peut même rencontrer les propriétaires ou les patrons si des fois là, la personne elle veut bien. C'est toujours là, selon le consentement de la personne. Là. Mais on peut aller rencontrer les collègues de travail puis expliquer la situation. Je te donne un exemple. C'est quelqu'un qui. C'est une personne qui va vivre avec des hallucinations.
Okay.
Admettons. Puis la personne, elle se parle, puis bon. Les collègues de travail, ils sont mal à l'aise. Ils vont dire mais c'est qui se passe? Pourquoi qu'il se passe? J'ai pas rien fait. Puis. Ça peut mettre certaines craintes. Mais nous, on va aller expliquer, ben non, ça ne dérange pas, lui, c'est le même. Puis tu sais, fait que là, ça facilite vraiment l'intégration de cette personne-là dans l'équipe de travail. Un coup, tu sais, les préjugés sont souvent là parce qu'on ne comprend pas. Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on on rejette les gens ou on ne sait pas. Un coup qu'on a compris, puis qu'on sait comment la personne fonctionne, ben ça, c'est beaucoup plus facile.
Oui.
Fait qu'on a par rapport au travail, on a au niveau du logement aussi, on va accompagner les gens à vivre adéquatement en appartement.
Okay.
On n'a pas d'appartement, nous autres, tu sais, puis on ne fait pas non plus de recherche, on n'a pas de liste d'appartements, on va aller là, on va aller là. On fait des démarches avec les personnes. Nous, on accompagne. On est assis à côté. Ouais, on n'est pas en avant, là. On est à côté, puis on l'accompagne dans sa démarche. Fait qu'on peut faire avec lui une recherche d'appartement, mais avec les mêmes listes que tout le monde. Puis on va accompagner aussi à l'intérieur pour qu'ils se maintiennent en appartement de façon adéquate. C'est vraiment du cas par cas. Chaque personne, là, c'est différent.
Il y a des défis différents.
C'est ça. Je ne voudrais pas oublier de servir.
Bien, on a... Tu sais, il reste que l'écoute téléphonique qui est restée depuis toutes ces années. On a des groupes aussi d'autogestion. Oui. Donc, autogestion, c'est une approche au niveau de l'auto-soin.
Okay.
C'est-à-dire qu'on fait de l'enseignement sur autant la problématique que sur comment aller mieux à travers ça. Fait que c'est vraiment une démarche, la personne reprend le pouvoir sur ses symptômes, sur comment aller bien à travers les différentes étapes. Donc, on a l'autogestion par rapport à l'estime de soi, l'anxiété, la dépression, le trouble bipolaire et l'anxiété au travail.
Bon, en milieu de travail.
En milieu de travail, oui.
OK.
Fait que, puis, tu sais, dépendamment des besoins ou des demandes au cours de l'année, bien, on monte des listes d'inscription, puis après ça, on peut démarrer une série d'ateliers en lien avec les besoins des gens qui auront appelé ou qui auront demandé. Là.
C'est ça. Okay. Puis on a aussi nos pères aidants.
Bien sûr.
Les pères aidants, c'est quelqu'un qui, par son, qui a vécu ou qui vit encore un problème de santé mentale, puis par son expérience, va justement amener l'espoir auprès de ses pères pour dire, bien, regarde, même si je vis avec le trouble bipolaire ou si je vis avec une schizophrénie, bien, je suis capable d'être un travailleur, je suis capable d'avoir autonome, une vie satisfaisante, ouais, d'avoir des enfants, d'être autonome, c'est ça. C'est vraiment un message d'espoir, puis ils travaillent beaucoup avec le rétablissement aussi. Mm-hmm. Mais nous, on a deux pères aidants.
Fait que ce que je comprends, là, c'est que en fait, l'ensemble des protocoles ou des services, c'est de partir de la personne, de ses besoins, de ses défis, ouais, puis de l'amener, ouais, à devenir autonome à travers tout ça,
c'est
puis
ça,
à réintégrer, puis à devenir...
C'est ça,
oui. Autant pour la personne atteinte que pour l'entourage. Ouais. On parlait, une personne sur cinq actuellement reçoit un diagnostic ou vit avec ça, mais il faut compter que cette personne-là qui reçoit le diagnostic, elle a une famille, elle peut avoir un conjoint, des parents, un frère, une soeur, des enfants. Donc, l'arrimage répond aussi aux besoins de ces gens-là. Ça fait peur pour la personne qui le reçoit, ça fait peur pour les gens qui vont avoir à vivre avec la personne aussi. L'incompréhension, la méconnaissance de ces diagnostics-là ou de ces problématiques-là qui vont arriver, ces gens-là on peuvent appeler chez nous, peuvent venir chercher l'information, le soutien nécessaire, là.
C'est quoi les... commençons par le début, là. Comment on sait, tu sais, avant de vous appeler, il faut avoir une problématique dans la vie, là, tu sais, dans le sens d'un défi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment on allume que là, ça serait peut-être le temps de consulter quand ça vient nuire à nos rapports sociaux, à notre travail, etc.?
Bien, c'est déjà une très bonne partie de la réponse. Déjà, quand on observe qu'il y a certaines sphères de notre vie qui fonctionnent moins bien, que ce soit le sommeil, que ce soit l'appétit, les relations sociales ou... T'sais, ça peut être une apathie qui s'installe, t'sais, là, dépendamment de la maladie, évidemment, mais t'sais, si on pense, mettons, à la dépression ou à un épuisement, ben, t'sais, c'est le genre de symptômes qu'on va voir apparaître. Une humeur qui est plus maussade ou plus négative un petit peu. On va avoir tendance peut-être à s'isoler ou à avoir moins le goût de faire des activités qu'on aimait faire avant. Okay. Donc, quand on observe ça, que ce soit nous qui le vit ou que ce soit on observe ça chez un ami ou chez mon frère, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu, d'habitude, il me répond tout le temps. Tu sais, quand on observe quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de reconnaître chez la personne, là, déjà là, c'est des petits signaux qu'on peut trouver plus important de s'intéresser à ça. Oui, on peut appeler à l'arrimage, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est certain qu'à l'arrimage, on ne va pas poser le diagnostic nécessairement. Mmh. On va vous encourager à aller en parler à votre médecin, à voir depuis quand ça persiste. Tu sais, c'est pas une mauvaise journée qui va faire que... Tu sais, c'est des symptômes qu'on doit observer pendant un bon 2 à 3 semaines, là, avant de voir que, c'est quelque chose qui est là puis qui va nécessiter vraiment une consultation.
OK.
Quel autre signaux qu'on pourrait observer?
Tu sais, puis pour venir à l'arrimage, on n'a pas besoin de diagnostic.
Non plus.
Nous, on accueille la personne, elle arrive chez nous, puis on regarde avec elle quel besoin elle a, qu'est-ce qu'elle vit, puis dans l'offre de service qu'on a, qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Mm-hmm. Okay. On n'a pas besoin de diagnostic pour nous autres, on ne le pose pas. Ce n'est pas une question pour nous autres qui est importante. Là.
OK.
Ça fait que s'il y a quelqu'un qui vient chez nous, c'est parce qu'elle vit une difficulté, puis on va l'accompagner.
On va être capable de pouvoir aller.
C'est ça. Puis tu sais, la santé mentale, là, c'est pas une ligne droite.
Ouais.
Tu sais, ça fluctue dépendamment de ce qu'on vit, de ce qui nous arrive. Puis c'est pas parce que si on descend à une semaine qu'on est en dépression, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a des événements dans la vie que c'est normal qu'on soit plus triste.
Ouais.
Puis que c'est normal qu'on vive du stress. Mais ça veut pas dire que je suis une personne anxieuse parce que je suis stressée cette semaine. Tu sais, c'est ça aussi. Il faut normaliser aussi ce qu'on vit.
Ouais.
C'est pas toujours grave.
Mm-hmm.
C'est vraiment ça. Parce que là, ce qu'on voyait, si on revient par rapport au COVID, là. Alors, je suis stressée, puis je fais de l'anxiété, mais c'est normal. Tout le monde, on l'a vécu.
Oui, on est tous là-dedans.
On était tous là-dedans. C'était normal parce qu'il nous est arrivé un événement incontrôlable.
Ouais.
Ça, c'est gros, là. C'est facile à comprendre pour tout le monde.
Oui.
Mais dans nos vies, des événements incontrôlables, il en arrive tout le temps.
Mm-hmm.
Ouais. Fait que c'est bien normal, des fois, d'être plus stressé, de mal dormir. C'est quand on dort mal pendant des semaines et des semaines que là, il y a un problème.
Mm-hmm.
Mal dormir 3-4 jours, une semaine, inquiétez-vous pas, là. C'est pas grave, là. Ça va se replacer.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est quand ça persiste, puis que là, il y a un autre symptôme qui apparaît. Ah, là, je ne mange plus.
Ah, oui.
Ah ben, OK.
Comme
puis là,
si
je suis.
Ouais,
c'est ça. Puis là, là, je suis plus irritable aussi. Tu sais, quand ça s'accumule, puis que ça persiste dans le temps, ben là, on peut aller consulter. Vous pouvez nous appeler, même si vous avez une nuit. C'est pas grave, on va vous parler, il n'y a pas de problème.
On va vous dire que c'est pas grave.
On va vous dire, inquiète-toi pas, pour le moment, c'est pas grave, c'est normal.
Oui.
C'est bien normal.
Puis, moi, si je décèle une possible problématique chez quelqu'un de mon entourage, je peux aussi vous appeler pour essayer de m'aider à l'aider.
À aborder ça avec elle. Tu sais, c'est ça. Autant comment aborder, bon, j'observe qu'on dirait que ça va moins bien. Donc, tu sais, on va vraiment regarder, bien, d'un, qu'est-ce que vous observez chez votre proche qui vous inquiète? Okay. Est-ce que vous en avez parlé? Non. Pourquoi? Bien, je ne sais pas comment, ou j'ai peur de comment il va réagir, ou j'attends que ça passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on part de là, de qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce qui vous inquiète, puis peut-être qu'on va normaliser, bien, le gars, il vit ça, donc ça se peut que ça se replace, ou bien oui, vraiment, il y a des signaux que vous faites bien de vous inquiéter, vous avez bien fait de venir chercher des réponses. Après, on va travailler avec vous à comment aborder ça avec votre proche, puis comment l'encourager à aller chercher de l'aide. C'est pas toujours évident non plus pour la personne qui vit des symptômes. Des fois, ils sont pas nécessairement toujours volontaires à aller chercher de l'aide. Donc, c'est toutes des approches qu'on va discuter ensemble au support aux familles, justement, à comment aider notre proche, à comment l'encourager à aller s'aider puis à aller chercher le support nécessaire.
On l'a nommé à nombreuses reprises. Là, on va faire un peu le tour des... Mais la dépression... J'ai l'impression que c'est un thème qui a été un peu galvaudé ces dernières années. « Ah, je suis en dépression, je suis dépressif.
Ouais. »
C'est quoi exactement la dépression, tu sais, pour être capable aussi de faire la différence entre « j'ai une mauvaise journée, je suis fatigué. »
Bien, la dépression, en fait, c'est un trouble de l'humeur.
Okay.
Puis c'est un peu comme ce qu'on dit tout à l'heure, il faut que les symptômes persistent depuis plusieurs semaines. Donc, on peut faire face à une humeur dépressive ou là, une période un peu plus apathique et tout ça. C'est plus difficile de se mobiliser, plus difficile de se lever et tout ça. Quand ça a persisté beaucoup, puis qu'on n'a pas écouté ces signaux précurseurs-là, puis qu'on n'a pas pris soin de soi à aller chercher l'aide nécessaire puis à trouver des façons d'aller mieux, si les symptômes continuent de persister, là, on va faire face à la dépression plus sévère. Donc, c'est ça, en fait, c'est que la personne, c'est très difficile non seulement de vivre ses activités quotidiennes, ne serait-ce que de se nourrir, se laver, se lever.
Ça va jusque-là. Une dépression majeure, ça peut aller
jusque-là. Ça va handicaper le quotidien.
Pour faire une petite similitude, tu sais, là, si tu as une bonne, pas un rhume, mais une bonne grippe, là, on est malade, là, on se lève pas. Mm-hmm. Tu sais, on est couché pendant une semaine, on n'est pas capable de se lever. Puis c'est ça, puis on mange pratiquement pas, on prend pas notre douche. Tu sais, même aller se laver est un effort.
Ouais.
Vraiment, ben quelqu'un qui est en dépression majeure, c'est ça qu'il va vivre. Mm-hmm. Il n'est pas capable de se lever.
Fait pas exprès.
Aller se laver pour lui, c'est monter une montagne, là, tu sais. Mm-hmm. Juste ça, là, c'est un effort extrême.
Fait que là, il n'est pas rendu à aller travailler.
Mais non, c'est ça.
Les lunchs pour les enfants.
C'est ça. Fait que comment qu'on va dire, donne-toi un petit coup de pied dans le derrière, puis vas-y, là. C'est pas ça. C'est pas de même que ça marche. Mais ça, c'est une dépression majeure.
Oui.
Là, t'sais.
Ouais.
C'est pas. Avant d'arriver là, il y a eu d'autres choses, là.
Exactement.
Puis on a parlé des familles tantôt, mais il y a aussi, par exemple, les collègues de travail ou les employeurs.
Ouais.
J'imagine que vous devez être obligé parfois de même former ou d'expliquer, tu sais, il n'est pas lâche, là. C'est pas qu'il ne veut pas aller travailler, c'est qu'il est malade. Ça arrive?
Oui, ça va arriver. À la demande d'employeurs, on va aller donner des ateliers, des formations aussi auprès d'entreprises pour un peu expliquer qu'est-ce que les gens peuvent vivre. Puis avec le programme IPS, comme je disais tout à l'heure, bien, on peut rencontrer directement... Si quelqu'un vit une problématique à même le travail, bien, on est capable d'accompagner. Mais ça, il faut vraiment que la personne veuille le divulguer aussi.
Oui, c'est
Mais ça. L'employeur peut, lui, nous faire une demande aussi parce que dans son équipe de travail, il veut les supporter mieux. Bien, on peut le faire aussi. On a une série d'ateliers disponibles.
Puis après quoi? À travers quoi? Qu'est-ce qu'on traverse, en fait, avant de pouvoir commencer à remonter la côte puis à redevenir un actif pour la société? Comment ça fonctionne? T'sais? Parce qu'à un moment donné, tu descends, mais il faut que ça arrête, il faut que ça remonte. Comment on traite ça, mais comment on peut aider ces gens-là?
Bien, en fait, il faut que ça parte de la personne. T'sais, des fois, c'est ça le défi aussi au niveau du support aux familles. On observe notre proche a besoin, on observe tout ce qui pourrait être fait autour pour déjà que ça y aille mieux, mais tant que la personne ne se mobilise pas d'elle-même à aller chercher l'aide puis à faire des petites choses pour aller mieux, bien, fait que c'est un rythme qu'il faut accueillir puis qu'il faut prendre le temps puis qu'il faut faire les choix pour aller mieux et tout ça. Quand on parle des diagnostics plus, plus sévères comme ça, comme une dépression ou comme... Ben, tu sais, faut se donner le temps, là. Faut pas penser que dans un mois, tout est placé puis on est de retour à temps plein, tu sais.
Ça prend du temps.
Là. Ça prend du temps. C'est normal que ça prenne du temps. Notre cerveau, c'est une petite machine tellement
complexe
et fragile. Et donc, quand il y a un débalancement au niveau de la biochimie, c'est normal que, tu sais, parce que c'est ça, en fait, c'est que tes neurotransmetteurs, les hormones font que ton humeur a été affectée. Et bon, souvent, c'est la médication qui va venir placer ça. Okay. Quand on parle d'une dépression ou quand on parle d'un trouble anxieux généralisé, des choses comme ça, il y a une médication qui peut... évidemment, venir faciliter le rétablissement des symptômes. Après, une fois que les symptômes sont apaisés, une fois que les symptômes sont diminués, bien là, déjà, on voit plus clair dans qu'est-ce que je peux faire tranquillement pour aller bien. Consulter, c'est sûr que ça va être aussi la base d'un rétablissement. C'est faire des choses qui nous font du bien, c'est faire des choses qui tranquillement nous redonnent le goût de s'activer un petit peu dans le quotidien. C'est par étapes, c'est s'accompagner, c'est en parler aussi, c'est informer notre entourage de « Regarde, moi aujourd'hui, là, c'est une moins bonne journée, je t'avais dit que j'irais garder, mettons, finalement, j'irais pas. » C'est écouter les limites qu'on a. C'est
être honnête aussi avec soi. Là.
Ben oui, vraiment. C'est un défi majeur. Que, tu sais, apprendre à vivre avec, c'est vraiment ça. C'est que... Tu sais, il y a des journées où tout va se placer comme si rien n'était, puis d'autres journées où, bon, là, on le sent qu'on a des petites limites à mettre, puis des petites limites à respecter, puis donc, faut trouver la capacité de le dire aussi. Puis c'est s'écouter à travers ça, c'est accueillir qu'on a besoin de temps pour soi, puis c'est ça, l'équilibre, en fait, quand José dit la santé mentale, ça fluctue, c'est qu'il y a des journées où tout va bien, puis qu'on fonctionne super bien, puis d'autres journées où on a besoin d'un petit temps d'arrêt, puis c'est tout à fait normal et correct aussi, là.
Quand on reprend, qu'on remonte la côte, donc il faut que ça soit progressif, comme tu me dis, parce qu'il va y avoir des bonnes, des moins bonnes journées.
Ouais.
Est-ce que c'est difficile? C'est quoi les défis premiers, tu sais, quand tu retournes au travail? Est-ce que c'est le jugement des autres qui va t'amener un stress supplémentaire? Est-ce que c'est, je sais pas, le sentiment de plus être capable, de dire est-ce que je vais être encore, je sais pas.
Ben, c'est tout ça, c'est le jugement des autres, puis c'est ton propre jugement aussi, là.
Ouais.
Tu sais, on est souvent le premier à se critiquer, dire ouais. « Ah, mais comment ça, je suis plus capable de faire ça, je le faisais avant, là, je le fais plus. » Tu sais, dans la maladie, là, on parle vraiment dans un diagnostic de maladie mentale, il y a l'acceptation.
Mm-hmm.
Qui fait partie, mais tu sais, les maladies mentales, c'est une maladie physique, là. Mm-hmm. Comme quelqu'un qui a un cancer. S'il a un cancer, il faut qu'il l'accepte.
Ouais.
Un coup qu'il l'accepte, il va faire ses traitements, puis il va aller vers la guérison. Ben, c'est la même chose au niveau d'une maladie mentale. Il faut accepter ton diagnostic. C'est ça qu'on vit maintenant, on fait quoi, là?
Ouais.
Tu sais, il faut comprendre, il faut voir c'est quoi les difficultés qu'on peut vivre par rapport à ça, puis il y a des solutions. Il y a tout le temps des mm-hmm. choses qui vont arriver, puis qui vont t'aider à avancer. Mais il faut l'accepter.
Mm-hmm.
Un coup que ça, c'est fait. Puis c'est pas toujours une étape qui est facile à faire. On veut pas, là.
Oui.
Tu sais, on veut pas devenir schizophrène. C'est pas notre objectif de vie, c'est pas ça, là.
Mm.
Bon, un coup que c'est ça. Puis la famille non plus, c'est tout des chocs pour tout le monde, là.
Oui.
Bon. Mais maintenant, ça veut pas dire que t'es plus capable de rien faire.
Ouais. C'est de t'outiller différemment.
C'est ça.
D'approcher, en fait,
c'est ça.
Le travail
ouais. de se projeter dans la vie d'une façon qu'on n'avait pas pensé, mais que finalement, bon... C'est comme ça qu'on va devoir vivre la vie. Donc, comment on peut se projeter avec ce diagnostic-là? Parce que, tu sais, on ne pourra pas l'éliminer. Mais bon, on peut très bien construire une vie tout autant. Là.
C'est ça.
C'est juste de... C'est ça. Une fois que cette acceptation-là, cette capacité à apprendre à vivre avec ça, là, après, on peut construire...
C'est pour ça qu'on parle de rétablissement.
Ouais.
Parce qu'une maladie mentale, ça ne se guérit pas.
Ouais.
Une personne schizophrène, elle va demeurer schizophrène. Mmh. Une personne qui vit avec le trouble bipolaire, elle va demeurer avec le trouble bipolaire. C'est juste que c'est ça. Elle va apprendre à gérer ses symptômes, elle va les comprendre, elle va les connaître, elle va être capable d'amener des solutions pour quand même vivre avec ça.
Ouais.
Tu sais, mais c'est ça, ça se fait pas là, dans une semaine. Tu sais, ça prend quand même un certain laps de temps à comprendre tout ça puis de te mettre en action.
Fait qu'il y a beaucoup, vous avez quand même beaucoup de réussite, de succès. T'sais, il y a plein de gens à un moment donné qui réussissent, puis des gens que ça va être plus difficile.
Ouais.
C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à s'en sortir, j'aime pas ce terme-là,
mais
à se rétablir, puis quelqu'un qui va avoir plus de difficultés?
Ouais. Le support de la famille est un support important.
Ouais.
Oui. Ah oui, ça fait. La famille est un des facteurs essentiels du rétablissement.
Okay.
Ça, c'est clair que c'est ça, là. Mais c'est sûr aussi, ce que tu es comme personne, ton attitude face à ça,
oui.
tu sais, il va aussi t'aider si tu dis OK, puis j'avance plutôt que l'apitoiement sur son sort, pauvre de moi, tu sais, ouais, là. Ouais. C'est sûr que là, il y a quand même. Puis deux personnes schizophrènes ne vont pas vivre tout à fait la même affaire non plus. Tu sais, c'est pas ça. Égal, là. Fait que ouais. D'autres vont avoir des symptômes. Ça dépend des symptômes que tu vis. Tu sais, si tu entends vraiment toujours des voix, puis que ce sont des voix qui sont plus négatives, puis qui sont toujours en train de te détruire, ben c'est plus dur que si tu entends une voix qui te dit que tu es capable. Tu sais, bon, tu sais, c'est tout. C'est vraiment complexe, là. Tu sais, il y a une personne, c'est une affaire, un autre, c'est d'autres choses, là. Puis ils ont le même diagnostic, ouais. Mais.
Je ne vis pas de la même manière. Tu sais, quand la personne est volontaire, oui. Puis qu'elle communique à son médecin ou à son psychiatre, là, justement, j'entends telle affaire, ça passe pas du tout, tu sais. Il reste que ça prend du temps. Puis des fois, on trouve pas toujours, d'un, la bonne molécule, le bon médicament qui va venir apaiser les symptômes. Ou des fois, il y a des ajustements qu'on a à vivre. On vit des changements corporels, donc la médication, des fois, a besoin d'être ajustée. Fait que, tu sais, plus la personne est impliquée dans son suivi médical, est entourée de gens en qui elle a confiance pour nommer « là, ça va moins bien » ou « là, je me sens, ça il y a des idées qui reviennent que je me connais dans ce temps-là, je sens qu'il y a une rechute qui est possible » ou tout ça. Fait que quand on est capable d'avoir des signaux précurseurs, d'être à l'écoute de ça, bien, des fois, il y a des choses qui peuvent être mises en place avant de revivre une rechute plus, plus importante. Puis, tu sais, José parle que c'est comme une maladie physique, mais c'est vrai que c'est ça. C'est vraiment, c'est juste qu'on le voit moins, puis quand les symptômes sont beaucoup présents, bien là, on a l'impression que, mais tu sais, c'est comme
la
quelqu'un...
La journée que ça va bien, on a l'impression que c'est réglé. Là.
Tout est parti, ouais. Tu sais, mais c'est pas ça du ouais. Tout, tu sais, puis c'est ça. Là, justement, les périodes où il y a des petits creux, puis où ça remonte, tout ça est normal, fait que tu sais, c'est vrai que pour une personne, ça va être très stable pendant des années, puis d'autres, il y a plus d'ajustements nécessaires, il y a plus de... Puis là, il y a plein de facteurs. Oui, la famille en est un, puis tu sais...
Le milieu de travail,
la capacité à s'organiser dans le quotidien, dans un logement, tout ça. Fait que tu sais, ils présentent des besoins différents aussi, les gens qui vivent avec un diagnostic. Donc, il existe plein de services différents aussi pour...
Moi, là, je suis en train d'écouter ça, puis là, je suis touché par ça. Puis là, dans mon milieu de travail, il y a quelqu'un qui va vivre ça. Et je sens que des collègues ont des préjugés vers cette personne-là. Comment je peux intervenir? Comment je peux parler à mes collègues pour leur faire comprendre que, attends, tu ne sais pas ce que la personne a vécu, tu n'es pas dans cette situation-là. Comment on fait? Je ne sais pas. C'est peut-être une mauvaise question.
Mais dans le fond, là, pour être capable, c'est... Peut-être toi d'aller chercher les renseignements nécessaires. Tu peux nous appeler et dire, regarde, dans mon collègue, j'ai une collègue qui vit tant, qu'est-ce que je peux faire pour la supporter dans le milieu? Comment je peux? Fait que tu peux nous demander, on peut venir. Comme toi, tu peux venir chercher de l'information puis de la divulguer. Tu sais, d'en parler avec tes collègues de travail. Tu sais, elle le fait pas par exprès. Là.
Ouais.
Tu sais, ça fait trois fois qu'elle part en dépression. Ben oui. Mais bon, c'est le problème. C'est pas un choix de carrière. Non, là. On ne choisit pas d'envie de vivre un problème de santé mentale. Là. C'est pas ça qu'on veut. Là. Fait que déjà, en comprenant ça, ça donne un petit plus, là. Mm-hmm. Mais d'amener... Puis tu sais, des fois, ce qu'on dit va semer une petite graine. On n'a pas le pouvoir sur l'autre, jamais. Là. Non, on a du pouvoir sur nous autres. On est capable de parler, de présenter des choses. À maintenant, ça appartient aussi à l'autre de changer ou pas, si elle veut. Là.
On peut juste mais amener à réfléchir.
C'est ça. Puis supporter la personne qui va revenir au travail.
T'sais. Montrer par l'exemple.
Et montrer qu'on est solidaire avec elle puis qu'on va essayer de l'aider du mieux qu'on peut dans le travail aussi. Des fois,
mais y a pas on des a des fois, tâches. Un malaise. Ah ben mon collègue revient, je veux l'aider.
Oui.
Mais là, ça me gêne d'aller le voir et dire hey, content de te voir, j'espère que ça va mieux. Ah non, viens-tu de.
Non, mais tu peux lui dire t'es content de le voir. Ouais,
ça
va mieux.
Mais
oui,
c'est que je pourrais faire
bien.
Pour t'aider.
Oui, OK. De le nommer, là, ça,
ben
c'est
oui.
Bon.
Ben oui, ben oui. Parce que, tu sais, l'éléphant dans la pièce, à un moment donné, il est là. Tu sais, fait que la personne, elle sait très bien qu'elle a affronté dans. Tu sais, les collègues d'un retour au travail. Donc, plus elle sent qu'elle est bien reçue, plus elle sent que son départ n'a pas été là, une détresse puis qu'elle a été indispensable puis que c'est donc, c'était le temps qu'elle revienne parce que là, il faut que ça clenche. Tu sais, si on y met une pression en arrivant, on ne l'aide pas, là, à bien vivre un retour.
De toute façon, elle sait.
Elle sait qu'elle est attendue.
Que probablement qu'il y a du travail qui ne s'est pas fait pendant le temps. Son absence, ça fait qu'elle aussi, il faut qu'elle ne s'en mette pas trop ses épaules.
Exactement.
Là,
fait que tu sais, de nommer. Comme ça, je suis contente que tu sois revenu. J'espère que ta première journée va bien se passer. je suis là, ou tu sais, puis si on n'est pas à l'aise de dire ça, je suis là, ou d'un, mais mon Dieu, c'est qu'elle va venir me dire si je suis. Tu sais, on dit ça à quoi on est à l'aise, mais dans le respect, dans l'ouverture, puis tu sais, il n'y a pas de mauvaise intention dans tout ça. Donc, déjà que la personne semble que son retour est apprécié, puis que ça, c'est une bonne chose qu'elle ait été prendre soin d'elle, puis que tant mieux si elle est capable de revenir. C'est tout simplement ça, là.
C'est ça. Puis nous, on fait, ça s'appelle des plans mieux-être, mais c'est des choses qui pourraient se faire dans les milieux de travail aussi. Mm-hmm. Dans le fond, c'est quand on est avec la personne, tu sais, qu'elle va bien, on regarde avec elle. C'est quoi les symptômes que tu vis au début quand c'est pour... Tu vois, là, que ça commence à moins bien aller.
Ouais.
Bon, bien, t'es-tu à l'aise que je te le dise?
Ah,
tu sais, fait que c'est comme ça aussi qu'on travaille. Fait que les gens vont nous dire, ah, ben moi, c'est, je commence à moins dormir, je commence... Oh, j'oublie des choses, bon, je fais pas mon travail, j'oublie des... Fait qu'à ce moment-là, comme patron, comme collègue, toujours dans l'idée de le supporter, mm-hmm. on peut dire, hey, tu sais, l'autre fois, quand on a fait le plan, tu me disais que t'étais à l'aise que je t'en parle. Mais là, je trouve que ça va moins bien.
Okay.
Ça serait peut-être le temps que tu ailles consulter ton médecin. Fait que là, ça l'empêche d'aller trop loin.
Oui,
tu sais, plus on traite, plus on... C'est ça, on prend des semaines, mettons, de congé, plus de bonheur,
mm-hmm.
ben ça t'empêche d'aller trop loin, puis là, de partir des mois et des mois, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça peut être intéressant aussi à amener ça dans le milieu de travail. Là.
C'est fascinant de vous entendre. On prend une petite pause, nous, mais on revient tout de suite. Restez avec nous. Vraiment, très intéressant. À tout de suite.
Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher!
On dit « don't feed the lady, Martine! »
Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure!
Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. Et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous!
Retour de la pause, on discute de santé mentale avec Ariane Lévesque, intervenante sociale, et José Dion, directrice du Centre de santé mentale Larimage. Merci d'être restée.
Ça fait plaisir.
Parfois, les gens vont confondre, puis peut-être que je me trompe, mais une problématique de santé mentale avec une déficience intellectuelle. Là, on parle de deux choses complètement différentes.
Complètement.
Ben oui, c'est complètement différent.
C'est quoi les différences?
Bien, tu sais, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, c'est un état, il vient au monde comme ça.
OK.
Tu sais, il a une capacité intellectuelle plus limitée, dépendamment là, du degré
qu'il a. Oui, oui.
Le développement du cerveau s'arrête à un moment donné.
Okay. C'est ça.
C'est figé dans le temps.
C'est ça. Il y a un moment donné, si son cas, c'est 6 ans, il va arrêter à 6 ans de développement. Là,
OK.
Puis ça ne compte pas dans nos services. Là.
C'est pas ça.
Fois, on en a, puis on est obligé de dire non.
Ouais.
Parce que ces gens-là ne sont pas heureux avec nous autres. Parce que c'est...
Ce n'est pas les bons outils.
Les bons outils, mm-hmm. Ça ne fait pas. Fait qu'en ce moment-là, on les réfère ailleurs. Là. Tandis que quelqu'un qui a un problème ou une maladie mentale n'a pas une déficience qui est avec son diagnostic. Puis souvent, les gens qui ont une maladie mentale ont des quotients intellectuels. plus élevé que la moyenne des gens. Là.
Okay.
Des fois, dans l'apparence, ça paraît pas. Parce que quand quelqu'un qui est beaucoup symptomatique, qui va se parler plus tout seul ou qui est plus refermé sur lui, va nous paraître comme ayant une déficience. On dit, ouais, mais non, c'est pas ça, parce que cette personne-là, elle a un bac.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, sa maladie est apparue quand il était à l'école. Il avait 25 ans. Il avait déjà commencé sa vie. Tu sais, mais bon, la maladie est apparue, puis bon, elle est venue perturber le restant de sa vie, là. Mais c'est des gens qui n'ont pas de déficience intellectuelle.
Quand tu dis la maladie est apparue, est-ce que ça apparaît comme ça ou c'est parce qu'il y a eu un choc, un événement, ou des fois ça peut juste être, ça arrive comme ça?
Ben là, chaque maladie, les troubles anxieux, ça va apparaître selon, mettons, une accumulation de stresseurs. Ça peut partir aussi d'un bagage biologique. Donc, si on a des parents très anxieux, ben ça se peut qu'on vive avec une certaine forme d'anxiété.
Oui,
si on vit un traumatisme important, ça peut générer un trouble anxieux aussi. Par contre, si on parle de maladies bipolaires ou de schizophrénie, alors là, c'est des maladies qui vont apparaître plus fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Fait que oui, il y a des choses qui s'observent un petit peu, mais tu sais, ça apparaît pas paf du jour au lendemain à 45 ans. Là. Fait que
c'est ça. Tu sais, enfant, des fois, on le voit pas, on peut pas voir ça. Là.
Non.
Ça s'épanouit, ça grandit, puis bon.
Ça fonctionne bien socialement.
C'est au début de l'âge adulte que là apparaît des symptômes, puis qui fait que là, c'est plus difficile.
C'est un âge crucial quand même, la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte pour la santé mentale.
Ouais. Ouais. Mais tu sais, ça ne s'attrape pas, là.
Non, c'est ça.
Ça reste le bagage génétique est là.
C'est en toi, là.
Les troubles de personnalité, à ce moment-là, c'est aussi des choses qui peuvent se développer. Mais tu sais, c'est ça, il y a quand même une génétique, il y a quand même un bagage biologique qui est déjà là, qui on est plus vulnérable à développer quelque chose, là, dans ce sens-là.
On a parlé de bipolarité. Bipolarité, c'est quelqu'un qui est très, très high, puis après ça, qui est très, très down, c'est ça? Puis ça varie?
C'est quand même ça. Moi, j'aime bien de faire l'idée de... j'entends beaucoup, il change tellement d'humeur tout le temps, il est bipolaire. Mais là, c'est parce que, tu sais, c'est pas parce que t'as été de bonne humeur le matin puis qu'à soir, t'as du fun que t'es bipolaire, là.
Ouais.
Tu sais, les phases comme ça dont on parle de manie, de dépression, ça s'étale sur des semaines, là. Tu sais, on va vivre phase de manie pendant 2-3 mois, puis après ça, tu vas avoir l'épisode de dépression qui va suivre. Fait que, tu sais, c'est pas une humeur très cyclique tout au long de la journée qui fait qu'on est bipolaire.
C'est comme devenu dans le langage populaire. Tu sais, on va entendre ça souvent. Ah, ben là, il est bipolaire, lui, puis ça, c'est...
j'étais
bipolaire. Ben non, t'as peur, c'est pas ça, là.
Ouais.
Tu sais, on dit pas, hey, je suis cancéreux, c'est un cancéreux, lui. Ils ont comme mis ça dans le langage populaire, mais c'est une maladie.
C'est une maladie, c'est ça. Puis la phase de manie, ben, tu sais, on va observer, c'est pas juste d'être de bonne humeur. C'est que, tu sais, la personne va avoir des idées de grandeur, n'aura pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mangera pas beaucoup, va manger extrêmement beaucoup. Donc, on va être vraiment dans les excès au niveau. Oui, c'est ça.
Créatif. Beaucoup d'artistes.
Oui.
Tu sais, des peintres ou des artistes peuvent vivre, mais ils sont très créatifs dans cette période-là, tu sais. Il
n'y
a pas que du négatif
dans
tout ça non plus. Les gens, ils ont des bonnes idées, puis ils sont capables de foncer. Et à un moment donné, c'est parce qu'il faut s'arrêter, là.
C'est pas bon
mais il reste qu'ils ont des idées qui sont quand même intéressantes dans tout ça, là.
Ensuite, on a parlé de schizophrénie. Ça, c'est les gens qui entendent des choses?
Entre autres?
Oui.
Ouais.
Ben, c'est des hallucinations. Ils peuvent en entendre, ils peuvent en voir, ils peuvent en ressentir. C'est assez... Il y en a qui peuvent tout vivre ça. Il y en a d'autres qui vont juste entendre.
Ils peuvent avoir des idées un peu délirantes ou avoir un discours, des fois, quand... C'est ça. C'est des gens qu'on l'entend déjà dans leur discours, des fois, que... sont moins connectés à la réalité, ils vont avoir des idées plus farfelues ou plus... Fait que, tu sais, déjà là, ça nous donne une idée là, du genre de symptômes qu'ils peuvent vivre.
Mais, puis là, on peut vivre avec des gens, c'est ça qu'on trouve un peu, comme tu le dis, farfelues, des idées un peu, mais qui vont vivre au travail super bien, puis qui vont maintenir leur appartement de manière parfaite, là.
Mm-hmm.
Fait que, c'est un peu compliqué à comprendre comment il peut nous paraître si désorganisé, puis que dans la vie...
C'est comme
tout va bien. Ils fonctionnent au travail.
C'est ça. Puis même, il y a des gens qui entendent des voix. Maintenant, il y a des groupes entendeurs de voix. Nous, on n'en a pas. Là.
OK.
Peut-être qu'un jour, on en aura. Mais les gens parviennent aussi là, à laisser une place aux voix. Ils vont dire, ben là, tu me déranges en journée. Et dialogue, tu sais, avec leur voix. Ouais. Je vais te laisser parler de 7 à 8. Le restant de leur journée, dérange-moi pas. Fait qu'ils sont capables d'être au travail, ils n'entendent pas de voix, ils sont très fonctionnels. Puis ils ont une heure là, chez eux que là, ils dialoguent avec leur voix. Puis c'est fini.
OK. OK.
Oh, ouais. Ah non, y a, on a. On... Ça, on n'aurait pas dit ça, là, 20 ans.
Mais non, mais non.
Ouais, non, non, là, mais les voix. Mais c'est
mais
ça,
oui, tu sais. On...
Puis les gens sont capables de. Ils ont un contrôle là-dessus. Ils sont capables de. Ils l'apprennent à contrôler leur voix. Puis on ne peut pas les enlever. Puis les enlever, c'est pas sain pour eux autres. C'est... Ça ne marche pas.
Ça fait pas. Fait
que si on leur laisse une place, mais ils choisissent à quel moment, ben.
Ça va
changer. Ça... Oui, c'est super intéressant, ça.
Ouais, vraiment. Oui. Trouble de personnalité limite, ça, c'est quoi exactement?
Ça, c'est complexe.
Ça, c'est complexe.
C'est plus complexe. Okay.
Mettons, là, en une phrase, là.
OK. Trouble de personnalité limite, c'est une problématique, en fait, qui va affecter, entre autres, beaucoup les relations sociales.
OK.
C'est des gens qui vont vivre les émotions d'une façon plus intense que toi puis moi.
OK.
Puis moi, je peux être intense des fois, mais pas à ce point-là. bon, des fois. Mais bon, ils vont être très contents et là, tu vas être le meilleur ami du monde. Et ils vont être très fâchés, tu vas être son pire ennemi.
OK.
Puis ça peut être assez difficile à suivre par moment, dépendamment des relations et tout ça. Fait que, entre autres, ça affecte beaucoup les relations. Ça va être difficile de maintenir des relations à long terme parce que, justement, l'humeur, c'est des gens qui vont adopter des comportements plus dangereux, qui n'auront pas beaucoup d'inhibition, qui n'auront pas peur du danger, qui vont foncer beaucoup sans avoir la conscience de l'impact que ça peut avoir autour d'eux non plus. J'aime pas tant ça d'écrire le TPA
correct,
parce que ça fait pas un beau portrait de ces gens-là. C'est des gens qui ont une personnalité... très attachantes et qui ont beaucoup de positifs à travers eux. C'est juste que ces traits-là qui ressortent le plus des fois avant de comprendre que, bon, je vis avec ça. Parce que ça aussi, c'est pas quelque chose de lequel on va guérir. Mais il y a des groupes spécialisés au niveau du trouble de personnalité limite pour apprendre. Là, on va plus apprendre au niveau de comment réguler l'émotion, comment gérer les relations. On est moins dans la gestion des symptômes et apaiser avec une médication. On est plus dans l'apprentissage psychosocial un petit peu. Là. Je résume ça.
C'est des gens qui vont vivre beaucoup de préjugés.
Oui.
Tu sais, par leur comportement, ils vont faire « Hey, toi, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là, mais ils vivent des préjugés aussi beaucoup. Là.
Ouais.
C'est l'incompréhension de ce type de maladie-là. Là. Ouais.
OK. Là, je vais aller vers une autre qui est probablement la plus importante parce que la plus répandue, l'anxiété.
Oui.
Problème anxieux. Moi, comme enseignant, je vois, mettons, on le nomme davantage. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais je pense que maintenant, on est plus capable de le nommer. C'est quoi le trouble anxieux, en gros? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, quand on l'est? Mais quand on... Moi, je pense souvent à des parents qui ont des enfants qui ont de l'anxiété. En tout cas, à l'école, on voit beaucoup là, l'anxiété de performance, entre autres.
Oui.
Comment on aborde ça? Là, ma question est large.
Oui, parce que les troubles anxieux, en fait, c'est une grande famille.
Okay.
On peut vivre un trouble panique, on peut vivre de l'agoraphobie, on peut vivre...
Les phobies, ça rentre dans l'anxiété.
Oui, exactement, parce que ça va nous faire vivre le même type de pensée, le même type de symptômes.
Il y a
l'anxiété généralisée, il y a le choc post-traumatique. Donc, j'en passe, là, mais tu sais, c'est une grande famille, les troubles anxieux. Et trouble anxieux, c'est-à-dire que, puis tu sais, José l'a abordé un peu plus tôt aussi, c'est pas parce qu'on vit un stress qu'automatiquement, il y a un trouble anxieux qui est installé. Tu sais, il y a un stress qui est tout à fait normal et qui est nécessaire dans la vie de vivre du stress.
Oui, oui.
Faut se préparer à des choses, on anticipe des événements, on se prépare à ça. Le stress, c'est la survie de l'être humain, c'est comme ça qu'on...
Oui, c'est vrai.
Par contre, quand il y a une anxiété qui est installée, c'est que là, le stress est démesuré pour ce qu'on a à vivre. C'est comme si on vivait un état de danger tout le temps, alors qu'il n'y en a pas de danger apparent.
Est-ce que c'est... Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui ont de la misère à être dans le moment présent puis qui anticipent des affaires qui, en général, ont très peu de chances d'arriver. Est-ce que
c'est pas mal un très bon critère pour décrire tout ça. Oui, c'est vraiment ça, d'anticiper des dangers, d'anticiper des scénarios qui, oui, au final, risquent très peu d'arriver ou seront très peu. Mais tu sais, la personne qui va se mettre à partir dans ce type de pensée-là va ressentir les symptômes comme si c'est vrai que ça allait arriver. Et donc, là, une panique peut embarquer ou un état vraiment plus difficile à fonctionner dans le quotidien parce que l'anxiété, des fois, ça peut nous empêcher de sortir, ça peut nous empêcher de voir des gens, ça peut jouer sur notre alimentation, ça peut jouer sur notre consommation de substances. Des fois, on ne va pas nécessairement gérer ça de la bonne façon non plus.
Parce qu'on a l'impression que ça nous aide à être plus calme, ou plus dans le moment présent.
Oui. Mais tu sais, au final, ça apaise bien le lendemain matin.
C'est ça, ça apaise pas longtemps.
Non.
OK. Et quand on a des enfants, comment on fait? Là? Bon, es-tu juste stressé parce qu'il y a un examen ou là, il est vraiment anxieux? Comment on peut s'outiller, en fait, là, pour je ne voudrais pas te dépister, on n'est pas des professionnels, mais pour dire, ah, peut-être qu'on aurait besoin d'outils, d'aide, de formation, je ne sais pas, y a-tu quelque chose qu'on peut faire?
Mais présentement, nous, on ne touche pas au niveau des enfants. Là. Okay. On va référer, nous, au niveau de l'équipe du CLSC, de l'équipe enfance-jeunesse, parce qu'ils ont déjà des ateliers qui sont destinés aux enfants.
Parfait.
Et aussi aux parents, là, qui les accompagnent là-dedans. Fait que nous, on est plus avec la clientèle adulte, là.
Ouais.
Mais les enfants vont vivre, mais puis on va rencontrer les parents pareil. Là.
Puis en tant que parent, on les connaît, nos enfants, on l'observe. C'est quelque chose qui ne va pas au point de nous garder en tête, Colin, il y a quelque chose, bien, tu sais, n'hésitez pas à poser les questions aux médecins. Oui. C'est eux qui sont capables de vraiment diagnostiquer quelque chose qui nécessiterait peut-être des services professionnels ou être stressé pour un enfant. C'est « je veux pas aller à mon spectacle », c'est une chose, mais « je veux pas aller à l'école, puis moi, je veux plus y aller, puis j'ai la boule dans le ventre, puis viens me chercher, j'ai mal au cœur » ou peu importe. Mm-hmm. Ben là, on est dans un état pour un enfant qui est moins fonctionnel, puis qui est moins agréable, puis que possiblement que ça nécessite d'aller poser des questions. Fait que quand, en tant que parent, on se pose des questions, ben faut pas hésiter, faut s'écouter aussi en tant que parent, on les connaît bien, nos enfants. Là, fait que...
C'est ça, puis tu sais, vous pouvez toujours nous appeler.
Ben oui.
Nous, à ce moment-là,
on peut faire le lien, on peut laisser,
parler avec la famille, puis c'est ça, à ce moment-là, on fait une référence, nous.
Puis au pire, on va se dire, c'est pas vraiment un problème, ça va aller.
Vous êtes un bon parent, tout est correct.
C'est situationnel, puis après ça, ça va être correct.
C'est ça.
Ouais. Et au niveau de je sais pas, là, moi je lance des idées. Là. Moi je vois beaucoup d'anxiété de performance comme si, et j'ai l'impression, je sais pas si ça existait autant avant, mais que le mode de vie dans lequel on est, faut travailler, faut avoir des enfants, des bons professionnels, des bons parents, avoir un chalet. Là j'exagère un peu, là, mais on a beaucoup d'intrants, des attentes un peu de la société. Est-ce que ça peut jouer sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a plus d'anxiété, ou en tout cas peut-être de performance, ou c'était comme ça avant puis c'est juste moi qui délire?
Non, je pense que tu as quand même raison, là, d'après ce qu'on peut observer, parce qu'on n'a pas vraiment d'études ni rien, on parle, là, mais je pense que oui. Je pense que dans l'environnement dans lequel on vit présentement est vraiment un générateur d'anxiété et de stress plus élevé que quand nous, on était enfants.
Mm-hmm.
Ça, c'est sûr.
Donc, le paraître aussi de ce qu'on va avoir l'air, tu sais, on se perçoit, on est là, dans la société de l'image, tu sais, les gens aiment ça se filmer, montrer qu'ils sont heureux.
Ben oui, là, les réseaux sociaux pour nos adolescents, c'est quand même...
Oui, c'est une problématique, hein?
Ça, je pense que oui.
Oui. C'est une problématique, en même temps, c'est un outil qui peut être très positif.
Mais
oui, comment apprendre à le gérer, c'est ça.
Parce qu'on voit autant aussi des gens qui vont le nommer, qui ont eu besoin d'aide, qui vont... Tu sais, il y en a des gens qui vont témoigner d'avoir fait un parcours au niveau de la maladie mentale. T'sais, on en voit aussi, il y a comme deux poids, deux mesures là-dedans. Mm-hmm. On voit beaucoup de gens qui sont très dans le paraître et dans la performance. Ouais. On voit des gens qui vont lancer davantage le message qu'on essaie de lancer aussi, là, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute, puis que c'est pas grave d'avoir fait un parcours au niveau de la santé mentale. Fait qu'il y a des modèles aussi à ce niveau-là qu'on commence à voir de plus en plus, mais qui a encore beaucoup de place à prendre.
Parce que c'est plus assumé aujourd'hui. Il y a plus de gens qui...
On est moins dans le tabou un petit peu.
Moins dans le tabou.
Ça se parle beaucoup.
Mais il reste
plus.
Encore beaucoup de chemin à faire.
Ah oui. Oui.
Est-ce que des groupes d'âge, c'est plus difficile? Ou est-ce qu'on développe aussi ce genre de problème-là, je ne sais pas, chez les personnes âgées? Ou tu sais, moi,
oui.
Oui?
Oh, oui.
La solitude?
Oui. Oui. Puis on le voit, là, nous, là, on réfléchit là, comment on pourrait... On n'a pas de service encore pour nos aînés, mais on y réfléchit comment on pourrait les supporter. T'sais, les services qu'on a actuellement répondent moins quand même là, aux personnes aînées qui sont là, mais ils ont vécu quand même les dernières années des difficultés. Puis de quelle manière on pourrait les supporter là?
Mm-hmm.
Mais oui, ils sont plus leur santé mentale a été affectée.
Oui.
Puis la solitude, puis le fait aussi qu'on est rendu, tu sais, on se rencontre moins. Ben, oui. Je dis pas ça, moi, je rencontre encore pas mal de monde, mais...
Oui, mais il y a des gens qui se rencontrent moins.
Ça est resté un peu, quand même. C'est des personnes qui vivent des deuils qu'on ne prend même pas en considération des fois, mais tu sais, au niveau de l'autonomie, au niveau de, d'une amie, tu sais, je veux dire, ils vivent des deuils souvent, ces gens-là, puis que ça affecte l'humeur, ça affecte la santé mentale, fait que c'est ça.
En vieillissant, tu sais, ils perdent des frères, des sœurs, des amis, ils se ramassent, sont seuls, tu sais, de leur gang, tu sais, c'est éprouvant, là.
Oui, oui.
Tu sais, puis... Fait que c'est sûr, on réfléchit de quelle manière on pourrait. Ouais, c'est sûr qu'on.
Vous avez des idées. Là,
on a des idées, c'est juste qu'on manque un peu de personnel. Oui. Puis de financement pour pouvoir tout. Mais on voit, on sait que les aînés ont besoin.
Parce que c'est un défi aussi, hein, beaucoup le personnel, le financement. Ben
oui. Oui. Ben, on engage une, on en perd deux.
OK.
On est là, là, oui. Oui, c'est le. Je sais pas ce qu'on disait tantôt. Les intervenants sont disparus. Ils sont disparus, je ne sais plus ce qu'ils sont rendus, on n'en trouve plus. Ils sont avec les bas dans la sécheuse. Je sais pas.
C'est parce qu'il y a plus de besoins, puis on,
ben, il y a plus de besoins.
Former de gens.
Puis pourtant, là, pourtant, les cohortes en travail social, en éducation spécialisée, il y a beaucoup de monde. Là.
Ouais.
Mais il y a des besoins aussi. Peut-être qu'ils en engagent ailleurs qu'avant, ils en engagent.
Le marché de l'emploi est différent.
C'est il est très dynamique, le marché de l'emploi, ça part, ça revient. Fait que, tu sais, nous autres, c'est sûr que il reste qu'on est dans la relation humaine.
Ouais.
Fait que c'est créer des liens.
Ça
prend du temps. Tu n'as pas le temps de créer des liens que la fille, elle reparte. Ben, je dis la fille, mais ça va être le gars. Là.
Ouais.
Il est reparti pour un autre emploi, il faut réengager.
Ouais.
Ça fait des coupures. T'sais, c'est dur pour les gens de... Ils s'habituent, mais il reste que de refaire confiance. Là. Les gens qui s'assoient chez nous, ils nous comptent leur vie. Là.
C'est
gros,
courage,
là.
Bien sûr.
Oui, fait que tu sais, compter ta vie, tu n'as pas le goût de le dire à quatre dans la même année. Là.
Ouais. Passer à travers l'histoire, parce que toi, ça te refait vivre tout ce que...
Ben oui!
Ben oui.
Que ça va pas, là.
Ben c'est ça, fait qu'on essaie...
Fait que même si tu avais plus de financement, tu seras pas capable d'engager plus de monde, parce qu'il y en a aussi un peu ça, hein?
Ben j'aimerais en avoir plus, ouais, pareil.
C'est ça, on dira jamais non à plus de financement.
Jamais non à plus de financement. C'est sûr que mon objectif, ça serait là, d'avoir... Parce que on est quand même 13 employés à l'arrimage, là.
Ouais.
Mais ce que j'aimerais, ça serait doubler le nombre de personnes par service.
OK.
Tu sais, support aux familles, ben là, ils sont deux. Mais près de trois.
Ouais,
ouais. Parce que vraiment, le support aux familles, là, dans les dernières années, est en hausse. Là. On voit que les familles ont vraiment des besoins là, plus que les dernières années.
Okay.
Mais dans tous les services, j'aimerais qu'il soit au moins deux intervenantes. Parce qu'on est obligé de dire non. Là. C'est vraiment plate. Là.
Ouais.
Parce que nous, avant, on accueillait tout le monde.
Okay.
Même s'il n'était pas dans un de nos services,
mm-hmm.
il appelait, c'était un trouble anxieux, il avait besoin de parler, on les accueillait. Puis il y avait des suivis. Là, on n'est plus capable de faire ça.
Puis vous ne pouvez pas prendre des bénévoles là, qui veulent venir aider. Ça prend des gens
ça qui prend ont des gens qui ont une formation.
Parce, touche à...
parce qu'on est dans... Non, c'est ça. On est dans l'humain, là, dans les problèmes. Fait que, fait que là, on est obligé de dire non à ces gens-là qui ne sont pas dans nos services.
Ouais.
Quand ils viennent, on fait une évaluation des besoins. Puis si on n'est pas capable de les faire rentrer dans un de nos services, ils sont sur une liste, là, pour les référer au CLSC ou ailleurs. Ça nous
qui ont
fait...
les mêmes défis de personnel.
Oui, mais il y a toutes les semaines, ça nous tord le cœur parce qu'on se dit, Caroline, ces gens-là ont des besoins. Puis là, pour le moment, avant, ils répondaient, maintenant, ils ne répondent plus. Fait que si on aurait trois intervenantes de plus qui feraient ça, mais
ça pourrait
ça serait le fun.
Le message est lancé.
Mais oui, c'est ça, venez nous trouver.
Oui.
Il nous reste quelques minutes, là. C'est quoi pour vous... Je ne veux pas vous mettre dans un mode anxieux, là, mais de l'avenir. Là. On projette là, aussi que vous voudriez amener l'arrimage là, dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on pourrait développer collectivement peut-être pour la MRC, Marie-Chapdelaine, je ne sais pas?
Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on développe des services au niveau des aînés. Là, ça serait... On a un volet jeunesse aussi, quand tantôt on n'a pas parlé, là, mais qui est aussi, lui, à développer plus. Là. On a pas
avec
assez...
les écoles ou avec juste...
Ben, c'est ça là, qu'il faut faire. On aimerait les écoles, mais c'est... il y a des milieux qui sont plus difficiles d'entrer ou c'est bon. Mais il y a ça... Mais c'est sûr qu'au niveau de la le travail, si on aurait plus de gens qui pourraient aller dans les milieux de travail, donner des formations. Tu sais, si on serait capable de donner des formations tout le temps, en continu, toutes les autogestions qu'Ariane a parlé tantôt, on a des financements pour deux autogestions par année, on ne peut pas en donner plus.
OK.
Fait que, tu sais, si on serait capable, mais là, encore là, l'idéal, ce serait qu'on pourrait en donner en continu, qu'on aurait suffisamment de personnel. Mais là, je ne suis pas pour lui faire non plus trois autogestions de suite. Là, je vois, c'est quand même plus une charge de travail supplémentaire.
Oui,
là.
Oui.
Fait que, mais si on serait, on pourrait en donner plus, ça serait beaucoup plus facile. Mm-hmm. Mais...
Tu sais, José disait que les familles présentent plus de besoins. C'est vraiment le cas. On observe vraiment plus d'accueil dans les dernières années de gens qui viennent chercher de l'aide dans ce service-là. Donc, il y a des choses qui sont en développement, particulièrement pour le sport aux familles, qu'on ne peut pas tant dévoiler.
Non, oui, vous allez voir à l'automne.
Oui, surveillez à l'automne. Vous inviter pour venir. Il y a des belles choses qui s'en viennent à l'arrimage, entre autres pour les familles. Donc, ce qui va être développé va nous permettre peut-être de créer des groupes pour les parents, de créer des groupes de discussion, des groupes d'entraide. De venir juste chercher l'espoir que tout ça peut être bien coordonné avec le proche atteint, puis qu'on peut vivre une vie bien équilibrée à travers tout ça. Fait que c'est ça, on développe entre autres plutôt bien le support aux familles.
C'est ça, puis on veut développer le groupe. Tu sais, c'est sûr qu'on est toujours en groupe, mais là, tu sais, pour justement les gens que je parlais tantôt, qu'on n'est pas capable présentement de leur donner des services, bien si on est capable de leur faire un groupe, au moins, ils ont quand même, tu sais, s'ils vivent c'est la même, on va regrouper les gens qui vivent la même problématique. Puis on va, c'est plus facile pour nous autres de rencontrer, mettons, 10 personnes en même temps qu'une. Tu sais, fait qu'on essaie d'y aller par le groupe, mais tu sais, c'est toute une manière de changer notre demande d'aide.
Faut que les gens acceptent aussi.
Oui, il faut qu'ils acceptent. Puis c'est un travail. Les gens pensent beaucoup qu'ils vont venir en individuel. Mm-hmm. Mais on n'est plus capable de le faire. Nous, on n'est plus capable, puis plus personne ne sera capable de le faire. Fait que je pense qu'on a ça aussi à changer dans notre demande d'aide. Nous autres, tout le monde, moi aussi, là. Quand je vais avoir besoin de services, il faut que je m'attende d'être dans un groupe. Parce qu'il manque de ressources humaines. Fait que si on est capable de donner quand même c'est un service... Puis le groupe a une force intéressante. Les gens se reconnaissent, sont capables de créer des liens, on le voit. Là. Mm-hmm. Fait que mais il faut oser le faire.
C'est
ça. Mais c'est tout un changement.
Merci beaucoup, mesdames. C'était très, 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 très instructif. Donc, j'étais avec Ariane Lévesque, intervenante sociale, hein, particulièrement pour le support aux familles.
Oui, voilà.
Et José Dion, directrice du Centre de santé mentale Larimage. Merci, vous faites un travail important. Je suis content de vous avoir reçu parce que je pense que c'est essentiel pour le bien-être collectif, là, le travail que vous faites.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Top. Bonne semaine. We'll be right back.